Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez tous bien et que vous continuez à être prudents. Je vois plein de gens qui se baladent et qui ne font pas, attention, je trouve. Enfin, je trouve que nous devrions quand même être un peu plus prudents avec le lavage des mains, ça je sais pas, mais en tout cas, beaucoup de gens qui se promènent sans masque. Je trouve que c'est dommage. C'est dommage. J'espère que on va pas être reconfiné. Ça serait un peu embêtant. Enfin, pas pour moi, hein. Moi, je suis très bien ici. On est dans un cadre splendide. Mais il y a des gens qui souffrent, hein, dans le confinement. Voilà. C'est pas le propos de ma prédication de ce soir. Donc aujourd'hui, on va prendre dans les Saintes Écritures. On va prendre Hébreux chapitre 3, puisqu'on continue à être aux Hébreux chapitre 3. On va reprendre le verset 2 sur lequel on est déjà venu la dernière fois, et puis on va aller jusqu'au verset 6. Seigneur Jésus, je te prie afin que nous puissions être des gens fidèles dans ta maison. Que ton nom soit béni et glorifié, Jésus. Amen. Donc Jésus est resté fidèle à celui qu'il a établi, tout comme Moïse l'a été dans toute sa maison. Donc, Jésus était fidèle en toute chose, fidèle à celui qu'il a établi, c'est-à-dire son Père Céleste. En effet, il a été jugé digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse, dans la mesure où celui qui a construit une maison reçoit plus d'honneur que la maison elle-même. Toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour témoigner de ce qui allait être dit, mais Christ l'est comme fils à la tête de sa maison. Or sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous tirons notre fierté. Amen. Dans Nombre 12-17, il est dit que, et c'est Dieu qui le dit, que Moïse a été fidèle dans toute sa maison. Et là, je vous rappelle, je pense que c'est l'apôtre Paul qui écrivait cette lettre aux Hébreux, que eh bien, ce témoignage de Dieu au sujet de Moïse faisait que les Hébreux revendiquaient et revendiquent toujours la grandeur de Moïse comme serviteur de Dieu. Et c'est vrai que c'était un serviteur de Dieu remarquable. Mais, dans le texte sacré que nous venons de lire et qui concerne la Nouvelle Alliance, dans le sang de Jésus-Christ, la comparaison fait vraiment ressortir le contraste. Moïse a été fidèle comme serviteur dans toute la maison de Dieu, c'est-à-dire la maison d'Israël, dont il a été libérateur. Vous vous rappelez qu'il avait sorti son peuple d'Égypte, où il était en esclavage, et aussi comme législateur. C'est lui qui a donné au peuple la loi. Et le caractère de Moïse a été en fidélité envers Dieu, dont il exécutait les ordres, et dont il faisait exécuter les ordres aussi, d'une façon très, c'était très, très ferme. Mais Jésus-Christ est fidèle comme fils, pas comme serviteur, comme fils dans la maison. Jésus est fidèle à celui qu'il a établi comme envoyé, comme apôtre, souverain sacrificateur, sacrifice lui-même. Jésus-Christ est donc fidèle dans sa propre maison, la maison de ses disciples. Je vous rappelle que c'est lui qui a construit sa maison. Il a dit « je bâtis mon église ». En fait, il a tout construit, il a tout bâti, Jésus. Il est dit que dans Colossiens 1,15 que c'est lui qui a tout fait, qu'il n'y a rien qui n'ait été fait sans que ce soit lui qui l'ait fait. De plus, Jésus est Dieu. On le sait maintenant, hein. Et c'est une autre gloire, c'est une gloire qui montre son infinie supériorité sur Moïse. Je vous ai expliqué pourquoi est-ce que nous, contrairement aux témoins de Jéhovah, nous croyons que Dieu, que Jésus-Christ est Dieu, parce que la Bible le dit, pas leur Bible est trafiquée, mais la Bible, toutes les Bibles, disent la même chose dans ce sens-là, que Jésus-Christ est Dieu. Et en tant que Dieu, ben, c'est lui qui a bâti sa propre maison sur laquelle il règne d'une façon fidèle. Ça signifie que Jésus a bâti son église de disciples. Et vous savez ce que c'est qu'un disciple, hein, c'est pas simplement quelqu'un qui va le dimanche matin à l'église. Vous regardez acte 2, acte 4, vous saurez ce que c'est que disciple. Vous regarderez Luc 14, 33, vous verrez ce que c'est un disciple. Tous les disciples, ils avaient tout quitté pour suivre Jésus-Christ. Jésus leur a dit, enseignez au monde tout ce que je vous ai prescrit, c'est-à-dire que c'est pourquoi le jour de la Pentecôte, les gens ont tout vendu et tout quitté pour constituer la maison de Dieu telle qu'il la voulait. Alors Moïse n'était qu'un fidèle serviteur dans la maison de son maître. Moïse occupait une place vraiment éminente, mais il faisait partie de la maison. Jésus, comme fils du Père éternel, est établi sur sa propre maison qu'il a fondée. Moïse a passé, mais Jésus, lui, demeure éternellement et continue encore aujourd'hui d'administrer sa propre maison, celle dont nous faisons partie, et nous pouvons compter sur lui, sur son administration toujours fidèle. C'est une grâce, c'est un encouragement merveilleux de savoir qu'il s'occupe de nous. Il semble des fois que on le prie, il répond pas tout de suite, c'est parce qu'il a un plan, il faut que son plan s'accomplisse, mais il finit toujours par s'accomplir. Et il nous faut rester fidèles, c'est ce que l'apôtre dit ensuite aux Hébreux, il dit, pourvu que vous restiez fidèles dans la confiance, voilà, il est avec vous, c'est un très très grand encouragement. Alors que Moïse n'est plus là, que je disais que Moïse a passé en tant que législateur. Bon, la loi morale de Moïse demeure, hein. Il ne faut pas commettre d'adultère, il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, toutes ces choses-là. Mais la loi sacrificielle, ces lois sacrificielles sont passées, sont terminées. Heureusement, d'ailleurs. Et puis aussi, les lois comme faut lapider les femmes adultères, voilà, ça. Heureusement, c'est fini tout ça. Là, les Juifs ne peuvent plus offrir de sacrifices que Moïse ordonnait, pour la simple et bonne raison que leur temple a été détruit, tous les objets sacrés ont été dispersés, détruits, et bah, ils s'arrangent comme ils peuvent, mais ils ne peuvent pas, ils se réclament de Moïse, un petit peu comme des petits jeunets en politique se réclament de De Gaulle, excusez-moi l'expression, mais voilà, c'est, c'est un petit peu moindre, n'est-ce pas, s'il fallait vraiment faire comme Moïse dit. Ils ne peuvent pas, c'est plus possible parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut. La dispensation de Moïse, elle est terminée. Et les Juifs sont bien obligés de faire avec un Moïse dont les lois sacrificielles sont impraticables. Alors ils ont inventé toutes sortes de trucs pour pouvoir. Alors il y a le grand pardon et toutes ces fêtes qui ne viennent pas de Moïse en fait. Alors que nous, eh bien, nous avons le sacrificateur, nous avons le sacrifice unique et toujours valable pour quiconque croit en Jésus-Christ, le souverain sacrificateur et le sacrifice parfait. Il s'est offert en tant que sacrificateur, souverain sacrificateur, il s'est offert lui-même en sacrifice. Et c'est un sacrifice qui est agréé par Dieu, et qui est accepté par Dieu et qui a une valeur pour l'éternité. Et nous sommes sa maison. Et c'est ce que Paul dit aux croyants hébreux de son époque, auxquels il écrit, et cette maison, qui est nous aussi, hein, parce que maintenant l'évangile s'est étendu aux nations, comme ça avait été prophétisé, et non plus simplement, c'est pas simplement, il faut pas voir cette maison que nous sommes simplement comme... l'habitation de Dieu, c'est vrai que Christ habite en nous, mais là, il faut envisager la maison de Dieu comme son église qui est administrée par lui, qui est dirigée, conduite par lui, et pas simplement des individus qui sont habités par Dieu et qui sont à eux tout seuls le temple du Saint-Esprit. C'est vrai que chacun d'entre nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit, mais nous sommes les membres, n'est-ce pas, du corps de Christ. Et l'Église, c'est bien plus que simplement les pauvres petits Pékins que nous sommes. Un jour, je regardais, j'étais en avion, et je regardais, on atterrissait, je voyais les gens dans les voitures, je disais, et dire qu'il y a des gens qui disent « je suis rempli du Saint-Esprit », mais un petit bout de machin comme ça, rempli du Saint-Esprit, ça ne fait pas grand-chose. Hein. Jésus est infiniment plus grand que, ce que tout ce que nous pouvons penser et ce que nous pouvons s'enorgueillir bêtement. Il faut rester humble. Alors, ces Hébreux auxquels Paul écrit et qui proclamaient être disciples de Jésus, étaient exhortés là à être fidèles, à demeurer fidèles et ne pas retourner à Moïse, même si Moïse était quelqu'un de formidable. Il leur parle de la fin de la course qui va démontrer, qui va manifester ceux qui auront retenu ferme la confiance et la gloire de leur espérance. Moi j'ai connu des gens, j'en ai connu plein de gens qui se sont engagés à suivre Jésus-Christ, puis maintenant ils sont retournés à ce qu'ils avaient vomi. L'homme est comme ça, c'est la fin qui montre ce qu'on a été, ce qu'on est. Il faut demeurer fidèle. Car déjà à l'époque, on peut voir ça quand on lit l'apôtre, vous aviez des gens qui se réclamaient oralement pour Christ, mais qui ne manifestaient pas la vie de Christ. Et ceux qui possèdent cette vie sont ici stimulés à tenir ferme jusqu'au bout. Hein, c'est pas parce que vous avez levé la main dans une réunion, vous avez été plongé dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou au nom de Jésus. Non, il faut demeurer ferme jusqu'au bout de notre confiance et notre engagement. Or, sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la confiance et la foi et l'espérance dont nous tirons notre fierté. Et c'est vrai que nous sommes fiers de la foi que nous avons, fiers de la foi d'avoir placé notre foi en Jésus-Christ, mais fiers aussi d'avoir été choisis pour comprendre ces choses et pouvoir les mettre en pratique. C'est l'apôtre Paul dit, si je me glorifie en Christ, hein, c'est pas en autre chose. On s'en fiche, c'est vrai que il vaut mieux être de ce côté de la planète qu'ailleurs, et c'est vrai qu'il vaut mieux avoir une bonne voiture qu'une voiture pourrie, c'est mieux d'avoir une belle maison que un appartement 8e étage sans ascenseur, mais c'est pas les signes matériels qui donnent la preuve que vous êtes chrétien ou pas, c'est les fruits que vous portez, et les fruits c'est pas seulement le matériel, c'est surtout du spirituel, de l'amour, de la bonté, de la patience, de la fidélité. La fidélité, ça c'est quelque chose. L'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens, qui était la maison, c'est-à-dire le temple de Dieu, il leur a écrit, et il écrit aussi aux Corinthiens, donc je vous ai, on peut lire ça dans 2 Corinthiens 6, Alors, je vais vous faire la lecture de 2 Corinthiens 6, si je retrouve, je crois que j'ai mis un petit feuillet. 2 Corinthiens 6, verset 14, je vous lis. « Ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles, car qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité ?» Iniquité, ça veut dire injustice. « Et quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ?» Quel accord entre Christ et la déchéance? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Et quel rapport entre le temple de l'esprit des vivants et les idoles? Car vous êtes le temple de l'esprit des vivants, vivant comme l'esprit des vivants l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai, je serai leur esprit des vivants. Ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit l'admirable et ne touchez pas à ce qui est impur et je vous recevrai. Et je serai votre père et vous serez mes fils et mes filles, dit l'admirable Tout-Puissant. On peut pas. Il ne doit pas y avoir de confusion. C'est noir ou blanc. C'est-à-dire, vous êtes dans les ténèbres ou dans la lumière. Vous ne pouvez pas être dans une espèce de flou artistique. Soit nous sommes le temple de Dieu, soit nous sommes des ténèbres avec les idoles. Michel, ça y est, tu reviens là-dessus, tu nous casses les pieds, tu nous juges. Non, je ne vous juge pas, je vous avertis. Je dois le faire. Si je ne le fais pas, je vous chatouille les ailes, mais j'aurai des comptes à rendre à Dieu. Parce que je ne suis pas là pour vous chatouiller les ailes. Quand on est la maison de Dieu, la maison de Jésus, on ne se met pas sous le joug des infidèles, des idolâtres, des iniques et des ténébreux. C'est ce que nous venons de lire. On sort de là, on n'a pas de communion avec ça. Oui, alors, c'est la secte, on est... Non, on est simplement des saints, c'est-à-dire des gens mis à part, c'est ce que la Bible dit que nous sommes. Si on a fait des compromis avec des infidèles, idolâtres, eh bien, nous recevons ici l'ordre de sortir du milieu d'eux. Alors, les compromis que vous avez faits sont peut-être d'ordre financier, politique ou religieux, mais peu importe, sortez, laissez tomber ça. Il y a plus que Moïse. Et pourtant Moïse, c'était terrible, il n'était que le serviteur. Il y a le Fils, il y a le souverain sacrificateur, le seul médiateur entre Dieu et nous. Qu'est-ce que vous avez à fricoter avec des idoles? Qu'est-ce que vous avez à fricoter avec des esprits de ténèbres? Pourquoi? Quels sont ces mauvais esprits qui vous poussent à faire ça? Pierre, l'apôtre, était tout aussi droit dans ses bottes hein, quand il parlait. On va lire 1 Pierre, celui dont l'Église catholique se vante. Ils disent que c'est le premier pape. Ben mon Dieu, si Pierre était le premier pape, ben le pape ferait bien de faire un petit peu comme Pierre et de dire et de parler comme l'apôtre Pierre. Écoutez ce qu'il dit, 1 Pierre 2, 5. Écoutez ça. Vous, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour être une maison par la réflexion d'une sacrificature sainte afin de vous transporter par cette considération dans l'unique sacrifice accepté de l'Esprit des vivants avec Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit dans l'Écriture, voici, je pose en Sion, une pierre angulaire, fondamentale, choisie, précieuse, et qui croira en elle ne sera point confus. Alors maintenant, La chose, c'est que qu'est-ce que ça veut dire ce mot bizarre, réflexion. L'apôtre emploie là des mots qui sont un petit peu bizarres. Attendez, je suis perdu dans mes feuilles. Je vais essayer de me retrouver. On va y arriver. Je me suis arrêté sur ce mot parce que c'est un mot qu'on n'emploie plus tellement. Et il faut qu'on sache qu'est-ce que ça signifie, ce mot « réflexion ». Et bien, je ne trouve plus la note que j'avais prise à ce sujet. Le mot « réflexion » dans l'origine, étymologiquement parlant, c'est « parole appliquée ». Parole appliquée. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais si vous relisez le texte, vous aussi, comme pierre des pierres vivantes, vous êtes édifié pour être une maison par la parole appliquée d'une sacrificature sainte. La parole appliquée, c'est Jésus. Jésus est venu la parole et il a appliqué, il a fait, il a manifesté ce qu'il devait faire, c'est-à-dire ce sacrifice saint. C'est géant, c'est immense, c'est absolument immense. C'est absolument immense. Si nous ne sommes pas fidèles à lui, mais au jour du jugement, mais ça va être terrible. Moïse a passé, mais Jésus continue d'administrer sa propre maison, dont nous faisons partie, et nous pouvons compter absolument sur lui. Nous pouvons compter absolument sur lui. Les Juifs ne peuvent plus offrir des sacrifices que la loi de Moïse ordonnait. C'est terminé pour eux. Mais pour nous, les choses ont vraiment changé, puisque nous avons le sacrifice parfait. On va relire donc le texte dans 1 Pierre 2, 5 à 9, sachant que ce mot signifie parole appliquée. Vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour être une maison par la parole appliquée d'une sacrificature sainte, afin de vous transporter par cette considération dans l'unique sacrifice accepté par l'Esprit des vivants avec Jésus-Christ. Si vous considérez les choses, eh bien, vous entrez dans la bénédiction qu'offre le sacrifice parfait qui était accepté par Dieu le Père. C'est ça que ça veut dire. C'est pourquoi il est dit dans l'Écriture, « Voici, je pose en Sion une pierre angulaire, fondamentale, choisie, précieuse, et qui croira en elle ne sera point confus. Ainsi, il est précieux à vous qui croyez, mais pour les méfiants, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la pierre du coin, la pierre de l'angle. » Et c'est une pierre d'achoppement et un rocher de scandale à ceux qui déforment la parole, donc ce qui est écrit, étant obstinés, c'est à cela qu'ils ont été destinés. Mais vous, vous êtes une génération élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis, pour proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous voyez, dans ce texte, il est dit « pour les méfiants ». Ceux qui se méfient, oui, mais ça ne serait pas une secte, est-ce que vraiment je peux faire confiance et tout. La parole de Dieu, vous pouvez faire confiance. Les versions plus courantes disent, mais pour les désobéissants, ce qui est guère mieux. En général, les méfiants sont des gens qui sont des désobéissants. Vous savez, depuis 1968, je prêche l'évangile et j'en ai rencontré des gens. Eh bien, ceux qui se méfient le plus en général, c'est parce qu'ils jugent les autres d'après eux-mêmes. Pour ceux qui déforment la parole de Dieu, ils sont méfiants au sujet de Michel Jonton, de son ministère, mais eux-mêmes déforment la parole de Dieu. Et ils sont obstinés. Vous voyez, c'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Pierre, le premier pape. Hein? Je ne crois pas que c'était le premier pape, mais voilà, c'est pour vous dire. Hein. Eh bien, l'apôtre Pierre dit, ils vont être brisés sur ce rocher qu'est Christ, sur cette pierre. Ils vont être brisés dessus. Parce qu'ils ont rejeté cette pierre, cette révélation, Christ, qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, par leur tradition, au profit de leur tradition, en étant méfiants, en déformant la parole de Dieu. Je prie vraiment pour vous. Je ne fais pas ça pour m'amuser ou pour vous blesser ou vous offenser, mais je suis malheureux de voir que ce beau pays de France est rempli de gens. Il y a beaucoup de gens qui aiment Dieu, mais qui ne le connaissent pas vraiment, qui connaissent un Dieu religieux, un Dieu poussiéreux, un Dieu qui n'a rien à voir avec ce que la Bible dit. Et je prie pour vous afin que vous ne soyez plus de cette sorte de personne, que vous ne soyez pas de cette sorte de personne. Que vous arriviez à vous comporter comme des disciples de Jésus et non comme des moutons qui suivent des bergers, qui portent la, comme dit l'apôtre, qui portent la flétrissure dans leur propre cœur. Vous voyez, encore dernièrement, j'ai appris un scandale là-bas au Vatican avec de l'immobilier, ils ont fait des faux, des escroqueries. Non, mais c'est terrible, c'est terrible. Et c'est pas seulement l'Église catholique, mais aussi dans les églises protestants dans les églises évangéliques, c'est partout le même truc. C'est infernal, c'est vraiment infernal. On ne doit pas se mettre sous le joug des infidèles, des idolâtres, des iniques et des ténébreux. Si on fait ça, on va se casser la figure sur le rocher, qui est Christ. Qui est Christ. Alors, sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la confiance, la foi et l'espérance qui fait notre qui fait notre fierté. Et puis c'est la fin de la course qui va manifester, n'est-ce pas, ceux qui auront retenu fermement la confiance, la foi dans les paroles du grand pas, transformer les paroles de Dieu. C'est la simple et pure vérité. Et nous sommes sa maison. Demeurons fidèles, ne retournons pas à ces préceptes, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, non, il faut faire ce que Dieu dit de faire dans la Bible. Savez-vous qu'il y a plus de choses que Jésus dit de faire que de choses qu'il dit de ne pas faire. Beaucoup de gens religieux sont négatifs parce qu'ils sont légalistes. C'est fini la loi de Moïse avec les, il faut pas faire ci, sinon tu meurs, etc. Non, maintenant, il y a tant de choses qu'on peut faire et qui sont merveilleuses. Tant de choses qu'on peut faire et qui sont merveilleuses. Alors, soyez des gens conséquents, soyez des gens, j'en supplie. L'apôtre Paul était sévère, l'apôtre Pierre était sévère, Jésus l'est aussi, il n'est pas que doux et gentil. J'écoutais une vieille prédication ce matin que j'avais faite le 12 juin 2016, où je parle de Jésus qui maudit un figuier parce qu'il ne porte pas de fruits, et pourtant c'était pas l'époque où les figuiers devaient porter du fruit. Et juste après, il rentre dans Jérusalem et il se met de nouveau en colère contre les pharisiens, les religieux, et il prend un fouet, enfin bon. Vous voyez, le doux Jésus, arrêtez avec ces histoires. Jésus est Dieu et il n'a pas changé. Juste maintenant, il est miséricordieux, c'est le temps de la grâce. Mais le temps de la grâce va bientôt se terminer. Vraiment, ce temps va se terminer. Prenez ce message au sérieux. L'apôtre Paul, Jésus, Jean, Timothée, Jude, Tite, tous nous disent, il en sera à la fin, comme au temps de Noé. Le mal va augmenter d'une façon exponentielle. Vous ne voyez pas qu'on y est ? Vous ne voyez pas qu'on est en plein dedans ? Regardez, c'est terrible. Puis, les choses, les combats, on ne sait plus où est la vérité, où est la justice. C'est épouvantable. On vit dans un temps de confusion. Il faut revenir à la simplicité de l'évangile de Jésus-Christ afin de savoir comment se comporter et rester dans la paix et la tranquillité, étant soi-même des porteurs de paix et de tranquillité, mais tout en étant ferme, pas permissif, pas « Oh ben non, t'inquiète pas, Jésus est gentil, il est bon ». Non, non, c'est pas vrai ça. Et c'est vrai qu'il est bon, mais un jour il passera, nous passerons tous devant lui et il jugera. Est-ce que tu as déformé ce que j'ai dit au profit de ta tradition ? Jésus, je te prie que très sincèrement, je te prie que mes frères et sœurs comprennent quelle douleur et quel poids j'ai dans mon cœur à leur sujet. Et combien je désirerais qu'ils fassent comme l'apôtre dit, sortez du milieu de tout ça et revenez à la simplicité de l'évangile de Jésus-Christ. Père, je te demande dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, que la porte de la grâce n'est pas encore tout à fait fermée. Je te demande, mon Dieu, de sauver à bras étendus ceux qui ne le sont pas, de les aider à entrer dans ta maison, à sortir de cette fausse maison de servitude nommée Église. Je te le demande, Père, de tout mon cœur. Je sais que je ne suis pas très, très bien vu quand je fais ça, mais je te prie d'aider chacun et chacune à être sérieux et à faire ta volonté. Merci Jésus. Amen. Amen. Je vous rappelle comment Jésus est exigeant. Je lisais encore cette semaine un passage dans les Écritures où Jésus dit « Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui trouve un trésor dans un champ. » Et il ne peut pas acheter le trésor, il n'a pas les moyens. Puis s'il achète le trésor, c'est ridicule, comment il peut? C'est pas possible. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il vend tout ce qu'il possède pour acheter le champ. Et comme il achète le champ, eh ben, il a le trésor. Vous voyez? Ça, c'est ce que Jésus dit. Et les chrétiens ne comprennent pas cette parabole. Ils ne comprennent pas que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut tout vendre pour entrer en possession de ce trésor magnifique. Ce n'est pas le fait de tout vendre qui vous sauve, mais cela montre où vous en êtes sérieusement avec lui. Est-ce que c'est votre petit confort, vos petits machins, vos petits trucs, ou est-ce que vraiment vous voulez vous engager avec Jésus? Je dis ça, je sais que ça ne va pas avoir un impact extraordinaire sur vos vies, mais un jour, bientôt, quand ça ira vraiment très très mal, vous retrouverez cette prédication et vous direz « Ah, le vieux Jeanton avait raison, je vais vraiment, vraiment changer. » J'espère, je prie, j'espère que vous le ferez. Amen. Au revoir. Dieu vous bénisse.